Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain plein de convictions et Bertrand Chamerois pour son écran de veille qui porte bien son nom, un écran méga HD. Notre invité, c'est le comédien et cinéaste Maurice Barthélémy, mais pas pour un film, mais pour son livre témoignage fort comme un hypersensible. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, un jeu vidéo social au succès fulgurant, 500 millions de joueurs dans le monde. Wow. Clément Le Sav va nous en dire plus. Waouh, c'était Bertrand Chamerois. Et trois bons films à regarder depuis son canapé, avec une petite nouvelle dans l'équipe, Marjorie Adelson, qui nous donnera sa sélection. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Content de vous retrouver. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe.
C'est donc l'heure de votre écran de veille et ce matin, Bertrand, vous nous parlez des nouveautés télé.
Oui, alors pas des nouveautés en matière de programme, mais d'objets télé. Hier à Vegas, s'est ouvert la nouvelle édition du CES, le grand salon de la high-tech. Et fouille, qu'est-ce qu'il y a comme innovation? On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retrouver une vie normale, mais en tout cas, on aura de belles télés. Hein. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'avec le troisième confinement qui arrive, on sera bien content d'avoir des télés plus performantes. Quoi ? Ah, vous n'êtes pas au courant ?
Non.
Ah bah si, on va être reconfinés là, ça arrive. Non. Hier, sur cette antenne, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré
« À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu. »
Donc en toute logique, il va y avoir reconfinement. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Hein. Bref, revenons aux télés du futur. Anthony Morel les a dévoilés. C'est le monsieur Nouvelle Technologie de BFM, le fils qu'aurait pu avoir Jérôme Bonaldi et Patrice Carmouze. Anthony Morel qui vit vraiment ses chroniques en les bruitant lui-même. Écoutez.
En gros, le principe, vous regardez la télé en mode normal, vous l'éteignez, elle disparaît, vous appuyez sur un bouton, l'écran va s'incurver à la demande.
Ah, il est à fond, il devait s'éclater avec cette Playmobil enfant. Parmi les télés du futur, il y a celle-ci, dont j'ai du mal à saisir l'intérêt.
Regardez les télés qui sont en train de se réinventer. Des télés transparentes, ça c'est ce qu'a présenté LG.
Alors pardon, mais on risque de rencontrer des problèmes. Parce que si on regarde un programme sur une télé transparente, mais qu'il est présenté par un animateur lui-même transparent, et Dieu sait s'il y en a, on va rien voir. Autant regarder un mur directement, ça coûte moins cher. Non mais apparemment, l'intérêt de cette innovation, c'est de pouvoir incruster de l'image n'importe où, comme par exemple, je cite, « sur sa baie vitrée ». Alors là encore, pardon, mais je vois pas bien l'intérêt de remplacer la vue sur notre jardin par Elisabeth Lévy ou Finkielkraut en énorme. Enfin, ceci dit, c'est un bon moyen de faire fuir les oiseaux. Et pour peu que vous mettiez le son, vous êtes peinard, plus voisin non plus. Ouais, c'est pas si mal finalement. Allez, autre innovation.
Une télé, alors que j'aime beaucoup, qui permet de regarder 4 programmes en même temps.
Ah, wow, non. Ah,
on va pouvoir regarder 4 émissions de débat de chaîne info en simultané. C'est génial, on va tous finir en burn-out. Quel enfer. Non, ce qui est bien avec la technologie, c'est qu'ils font vraiment tout pour nous rendre moins hystériques.
Par exemple, vous regardez un match de foot, vous pouvez envoyer depuis votre smartphone les commentaires sur les réseaux sociaux, une petite discussion avec les amis et puis une petite partie de FIFA en bas à droite.
Voilà, et une crise d'épilepsie derrière. Hein. On va tous devenir complètement zinzin avec ça. Enfin, dernière nouveauté.
De l'intelligence artificielle aussi qui va s'intégrer dans les télés.
Alors ça, c'est pas mal. Oui. De l'intelligence artificielle qui adapte le contraste, le son, la définition au programme qu'on regarde, c'est pas mal. Mais c'est pas la priorité là encore. Hein. Avant d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les télés, ce serait pas mal d'injecter un peu d'intelligence tout court. Charles parlait tout à l'heure de cette histoire des deux candidats des anges de la télé-réalité. Ils sont quand même pas fut-fut, hein, les gars. En pleine pandémie, entre couvre-feu et reconfinement, on leur offre la possibilité de s'échapper tout frais payé au soleil à La Réunion et ils en profitent même pas. À peine arrivés, ils repartent de force après avoir frappé le maire de Saint-André et sa famille. Faut être crétin, franchement. La seule bonne nouvelle dans ce fait divers, c'est qu'on sait enfin que les candidats télé-réalité sont capables de réussir un test. Bon, c'était le test PCR pour prendre l'avion, mais il l'avait passé haut la main. Voilà, je sais pas trop où va le monde, mais on pourra le regarder vriller sur des télés de la taille d'une véranda, et ça, c'est vraiment chouette. Vivement le futur.
Waouh,
Sarah
Connor. Quelle pêche. Et attention maintenant, bruitage. Eva Rock.
Vous retournez vers moi, là, c'est ça?
Oui, il les fait mieux que moi. En fait, le... Eva, c'est l'heure de votre zapping du lendemain. Que faut-il regarder ce soir, selon vous? Le thème de ces programmes, Eva?
Bah, on va mettre un peu d'intelligence dans deux programmes.
En toute modestie.
Voilà, qui ont une thématique qui est la conviction. Deux programmes en font leur leitmotiv sur France 2, d'abord, avec un documentaire intitulé Une vraie boucherie. Le réalisateur Philippe Lanier est parti à la rencontre de celles et de ceux qui exercent un métier qui est très décrié actuellement, les bouchers. Alors, vous allez voir, ils sont de toute génération. Certains exercent cette profession de père en fils, d'autres sont encore apprentis. Tous aiment passionnément leur travail et sont convaincus d'avoir choisi la bonne voie professionnelle. Petit florilège des propos que vous pourrez entendre grâce au montage de notre réalisateur, Nicolas Souvent.
Autant avant, on acceptait la mort plus facilement, autant maintenant, on ne l'accepte plus. Quoi. Si on achète un poulet, on ne va pas laisser la tête du poulet. Et si on mange un lapin, on ne va pas laisser la tête du lapin. Les gens ne veulent pas voir la tête de l'animal.
Une de mes filles qui a 16 ans est végane.
Elle me dit comment on peut se nourrir d'une bête, comment on peut tuer une bête pour la manger, quoi. J'ai pas de réponse.
Chacun fait son choix de vie. Pour les véganes, je leur demande pas tous les jours de manger de la salade. Je leur demande qu'un truc, c'est qu'ils viennent pas me faire chier, quoi, c'est tout.
Un boucher, il aime pas qu'on traite de tueur, d'assassin. Et moi, quand j'écoute un match de foot ou qu'il y a un commentateur qui dit « Ouais, c'est une vraie boucherie », ça me met en colère.
Excellent documentaire parce qu'il fait œuvre d'analyse quasi sociologique sur les changements dans notre façon de nourrir et parce qu'il donne l'occasion à ces femmes et à ces hommes de raconter leur relation aux animaux notamment. En revanche, amis vegan, passez votre chemin parce que les images de Barbac pourraient vous dégoûter.
Oui.
La conviction est aussi au cœur du film documentaire qui est diffusé sur Canal+, La Cravate. Étienne Chailloux et Mathias Thierry ont suivi entre novembre 2016 et juillet 2017 Bastien Régnier, jeune militant du Rassemblement National. Alors après l'avoir filmé pendant ces longs mois, on est en campagne présidentielle, les deux réalisateurs ont écrit un texte, une sorte de roman de la vie de Bastien qui sert de commentaire au programme. Le jeune Picard découvre le récit face caméra, parfois il réagit. Il devient en fait le propre spectateur de son militantisme, je vais y arriver. Un récit rythmé évidemment par des séquences tournées lors de cette campagne. Comme ce repas avec ses amis, tendez bien l'oreille, le dîner était arrosé.
Et celui-là que j'ai fait au collège, c'est un adjoint Philippot.
Qui, le grand costaud là?
Ouais.
Ça, c'est son assistant parlementaire.
Tu vois? Et toi, t'es l'assistant de l'assistant parlementaire?
Moi, je suis un copain.
Non, mais quand on a un bac plus 3, ils peuvent nous embaucher, même si on n'a pas trop les idées.
Non.
Et on peut mytho sur les idées?
Non plus. C'est bon, de toute façon, c'est pas compliqué avant de poser une grosse question. T'es patriote?
Ouais.
T'aimes pas les noirs?
Ouais, c'est parti.
Je vois les noirs.
Et on t'embauche.
Et voilà. Alors, outre la forme originale du documentaire, La Cravate, elle a une qualité, c'est d'appréhender avec justesse le parcours d'un militant sans porter de jugement. Jamais, à aucun moment. Alors, la violence de certains discours du RN, la violence physique de certains de ses membres, à commencer par celle de Bastien, ne sont pas du tout éludées ou excusées. C'est un très grand documentaire politique. Je récapitule. La conviction se décline sur France 2 à 23h10 avec le documentaire Une vraie boucherie et sur Canal+, à 22h50 avec La Cravate.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. À tous les deux, je dis à demain. Dans un instant, notre invité, le comédien et cinéaste Maurice Barthélémy des Robins des Bois. Mais d'abord, musique avec LP.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Maurice Barthélémy.
Bonjour Philippe, je suis très heureux d'être là.
Pareil, vous êtes comédien, réalisateur, on vous avait découvert dans les Robins des Bois, sur scène puis sur Canal+, puis vous êtes devenu scénariste, réalisateur, je vais citer Papa, c'était en 2005, film assez grave, et on va comprendre pourquoi, mais également Low Cost ou Les Ex en 2017, c'est dans le registre plus comique, et là vous publiez un livre qui m'a beaucoup étonné, d'abord parce qu'on se connaît depuis des années, j'ignorais tout cela de vous, et vous aussi vous l'ignoriez, vous l'avez découvert en 2015, le livre s'appelle Fort comme un hypersensible, c'est chez Michel Lafon. Ça parle de vous. C'est quoi un hypersensible?
Un hypersensible, c'est quelqu'un qui capte énormément d'informations et qui a un peu de mal à faire le tri dans toutes ces informations. Alors, quelles sont ces informations? Ça passe par des informations sensorielles, c'est-à-dire que c'est tout ce qui touche le toucher, le l'ouïe, la vue, l'odorat, et puis c'est aussi des émotions très fortes. C'est comme si, en fait, on avait tous les potards qui étaient au maximum, et que ben, forcément, on a un peu de mal au quotidien à trouver un équilibre.
Les potards, comme disent les ingé-sons, les potentiomètres. Vous l'avez écrit, ce livre, avec une psychopraticienne, elle s'appelle Charlotte Wills.
Ouais.
Pourquoi ne pas avoir écrit ce livre tout seul?
C'était important qu'il y ait un point de vue, je dirais, vraiment spécialisé sur l'hypersensibilité. Parce que moi, je raconte ma propre hypersensibilité, qui a ses caractéristiques, mais il y en a d'autres. Et je voulais absolument que Charlotte puisse avoir vraiment un point de vue spécialisé sur le sujet.
Elle écrit sur vous. Maurice Barthélémy fait mentir tous les articles et tous les individus qui considèrent qu'une personne hypersensible est quelqu'un qui pleure au moindre tracas, qui se lamente sans arrêt ou qui est faible. Alors avant qu'on parle de la découverte de votre hypersensibilité en 2015,
ouais.
Ça se manifestait comment quand vous étiez petit? Je pose la question, mais j'ai lu le livre donc je le sais. Mais quand vous avez 7 ans, déjà vous manifestez des tocs?
Oui, j'avais des tocs. J'étais un gamin qui était très angoissé et j'avais des tocs. Donc avant de me coucher, j'avais tout plein de rituels que je respectais. J'allais aux toilettes, puis après j'allais vérifier si la porte était fermée, si le gaz était éteint. Puis après je réglais mes réveils pour être certain d'être réveillé le lendemain.
Stop, je vous interromps, pourquoi mes réveils ?
J'en avais deux. J'avais peur qu'il y ait un réveil qui tombe en rade. Donc du coup j'avais un deuxième réveil au cas où.
Et là
donc,
ça va mieux ? Vous avez toujours deux réveils ?
Non, maintenant j'ai réglé tous ces problèmes de TOC. Aujourd'hui je suis un garçon tout à fait équilibré.
Il vous plaît ce studio ?
J'aime beaucoup ce studio.
Parce que vous racontez que depuis l'enfance, vous avez cette manie d'analyser tous les endroits dans lesquels vous arrivez.
Exactement.
Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir en courant.
Exactement. Et là, quand je suis arrivé, je me suis dit « Waouh, il est beau ce studio, il est rond, il y a quelque chose de très cohérent et on s'y sent bien. »
Il est
ça
très, très beau.
Ça ne vous embête pas que je mette un petit matelas et que je...
Non, non, allez-y. on va quand même discuter jusqu'à 11h. Et je précise, vous pouvez voir le beau studio et Maurice Barthélémy sur europe1.fr. Le plus dingue, on apprend plein de choses. Je vais aller très vite, c'est une histoire de famille. Vos parents ont des histoires abracadabrantesques. Votre papa qui a fait Sciences Po, qui abandonne tout pour devenir menuisier. Votre mère qui ne tient pas en place pendant un dîner. Racontez juste un dîner avec votre mère.
Oui, ma mère était une personne très, très, très active. Elle était originaire d'Haïti. Donc, c'est vraiment la maman antillaise par excellence et qui, elle mettait le feu partout où elle arrivait. Quoi. Elle avait une énergie de dingue, ma mère. Et moi, je suis plutôt un garçon assez réservé dans la vie et j'étais tout le temps un peu...
Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est les dîners. Ouais. Elle ne tient pas en place. Elle ne s'assoit pas. Elle se lève, elle redescend, elle va débarrasser.
Exactement.
Elle lance un truc, elle rediscute, elle va passer un coup de fil, elle revient. Je fais exprès de parler vite.
C'est ça.
Parce que ça a l'air d'être comme ça. C'est
elle
un tourbillon.
Elle avait peur du vide, ma mère. Donc il fallait tout le temps qu'elle soit en activité parce qu'elle avait peur de l'intimité.
Votre hypersensibilité, on vous connaît parce que vous êtes comédien. Ça influe sur votre métier. Quand on vous demande de présenter Burger Quiz, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus. Vous imaginez toute l'émission avant.
Ben, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas mon métier de présenter une émission. Donc moi, quand Alain Chabat me l'a proposé, je lui ai dit tout de suite OK parce que c'était une super opportunité. En revanche, il fallait vraiment que je me prépare. Et donc, j'ai tout préparé les émissions en amont. J'ai quasiment répété comme si c'était une pièce de théâtre pour être fin prêt au moment du tournage.
Mais il y a plus dingue que ça. À cause de votre hypersensibilité, vous dites, à cause de la naissance de votre enfant, à cause de la mère de l'enfant, ouais. Vous avez refusé le rôle d'Astérix dans Astérix 3.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, effectivement. On m'avait proposé
oui, de jouer Astérix. Comment ça, vous aviez oublié ? C'est page 234. Vous n'avez pas lu votre livre ?
Oui. Et en fait, ma fille venait de naître et il aurait fallu que je parte pendant 6 mois à l'étranger. Et en fait, ben, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je reste auprès de ma fille parce que c'est important d'être là dans les premiers mois.
Mais quand même, Astérix, ça ne se refuse pas. Et puis, il faut exposer votre théorie du double self.
Ouais.
Vous racontez une expérience très, très forte. Votre cousin Germain est mort très jeune, vous aviez 18 ans seulement, à cause d'une défaillance cardiaque. Vous allez le voir sur son lit mortuaire. Et là, il y a deux Maurice.
Oui.
Racontez.
Ben oui, parce qu'en fait, quand on est hypersensible, on ressent tout très, 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 très fort.
Mais donc, vous êtes deux. Il y en a un qui regarde, qui manque de s'écrouler.
Il y a une dissociation à ce moment-là. Et il y en a un qui assiste à la scène. Et il y en a un autre qui regarde
le premier en train de s'écrouler.
Exactement. Et en fait, c'est ça l'hypersensibilité. On se crée une sorte de double qui nous permet de nous protéger des émotions trop fortes. Mais ce problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce double devient un peu un ennemi et qu'il faut s'en débarrasser.
Ouais. Et vous êtes combien là ? Vous
là,
êtes un
là,
ou deux ?
Là, je suis tout seul.
Ouais.
Parce que je suis tout seul et je suis très content d'être tout seul.
Ce que je veux dire, si vous êtes deux, moi je ne fais pas un baby-foot contre vous. Il y a une autre hypersensible qui va arriver. Je ne sais pas si elle est hypersensible, mais ce qu'elle écrit est hypersensible. C'est Hélène Manarino et c'est votre portrait inattendu qui va suivre. Maurice Barthélémy, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel,
bienvenue.
Bonjour à tous.
Maurice, je ne vous présente pas Hélène Manarino. Vous étiez dans le rétroscopie consacré à Jean-Paul Rouve, présenté par Hélène, et qui a très très bien marché. Il y en aura un prochain. Vous nous direz qui c'est, parce qu'on aimerait bien savoir.
Évidemment.
Hélène,
bonjour,
c'est à vous.
Maurice Barthélémy.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Pipou, vous êtes un peu l'ami que l'on a tous envie d'avoir. Eh bien oui, capable de passer des heures au téléphone à remonter le moral de ses amis, créer sans cesse des groupes WhatsApp, imiter Mitterrand et Yves Montand, même si vous savez que vous ne le faites pas très bien.
Ouais. Cuisine... Très mal. C'est comment vous faites Yves Montand?
J'ai prévenu.
Même avec le masque, on y est.
Cuisiner pour tout le monde. Plat, dessert à base de citron récolté dans votre jardin, les boissons également. Mais ce côté rassembleur, ambianceur, leader, vous l'avez depuis toujours. Eh bien oui, la cour de récré avait besoin de vous, Maurice Barthélémy. Même si à la maison, vous aimiez vous retrouver avec votre doudou Clotte, votre doudou en linge de coton que vous traîniez partout. devant Goldorak avec votre bol de cornflakes. Mais rien ne valait votre bande, et il y en avait plusieurs. Votre cousin meilleur ami avec qui vous fabriquiez des courts-métrages, notamment des publicités. D'ailleurs, vous aviez une petite passion pub quand même, puisque dès qu'elle passait à la télé, vous aimiez les rejouer systématiquement. De toute évidence, vous vouliez être comédien, vous aimiez improviser, vous déguiser. Vous avez même fait une série de photos en exprimant toutes les émotions différentes. Enfant blagueur, avec votre copain Michel, le fils du coiffeur, sonner à toutes les sonnettes de la rue, puis se cacher, attacher un portefeuille à une cordelette dans l'espace public. Quand une personne voulait le prendre, vous tiriez sur la cordelette pour que le portefeuille disparaisse. Bien oui.
Oh, très bien renseigné. Ouais.
Populaire au sein des élèves, les profs vous adoraient également, notamment monsieur Hervé Denis qui vous a donné envie de faire du théâtre. Et puis il y a eu la première vraie bande, en première, les kids, que vous voyez encore le dimanche soir dans un resto pour manger un boboune, avant le Covid, je précise. Alors les kids, c'est vos copains. Vous avez fait les 400 coups ensemble, des messages téléphoniques complètement dingues. Mais il s'agissait surtout d'un groupe de musique avec comme première chanson African Sleepers. Les paroles, je traverse l'Afrique suivant la chaleur des pistes. À mes pieds de charentaise de brousse, le sorcier vaudou qui me les a donnés était optimiste. Son ambition, concierge rue Pierre Larousse.
Ça c'est du texte.
Oh là là. Ça c'est du texte.
Ouais. C'est, je sais pas où vous avez trouvé ça, c'est incroyable.
Ouais, c'est quelque chose. C'était vous le chanteur ?
Non, pas du tout, non, j'étais batteur.
D'accord.
Eh oui.
Vous avez échappé à une imitation, Hélène.
Maurice Barthélémy, les kids, oui, mais votre autre bande, ce sont aussi les Robin des Bois, évidemment, qui ont dû assister surtout à vos envies de ressembler à un coursier. Vous vous étiez donc acheté une grande caisse en métal pour mettre derrière votre scooter. Ces dîners avec Dominique Farrugia à la coupole qui disait systématiquement au serveur que c'était votre anniversaire. Vous l'avez donc fêté une quarantaine de fois en une année. Une bande de copains qui vivaient tous leurs rêves, jouer, faire rire, ça vous aimiez ça, vous aimiez blaguer en permanence, agrafer les pages des journaux de Dominique Farrugia le matin, vous mettre un cintre sur les épaules pour faire croire à tout le monde que vous étiez devenu commandant de bord. Mais votre plus beau sketch malgré vous, ce reste ce voyage à Los Angeles où vous avez oublié votre appareil photo numérique dans l'avion. À l'aller...
Pourquoi vous faites cette tête ?
C'est Jean-Paul Rouve qui a balancé le dossier.
Ça, non, non, c'est pas son genre du tout.
Pas Jean-Paul Rouve.
Moi, je le connais, c'est pas son genre.
Vous étiez complètement déprimé, vous appeliez tous les jours le service des objets perdus. Les Robins des Bois qui se sont bien vengés, puisqu'ils ont un jour trafiqué votre page Wikipédia en indiquant que vous étiez champion de ping-pong et fan de Gérard Lenormand.
Non. Ah
et d'ailleurs, lors d'une émission de radio, il était venu pour vous faire une surprise.
Oh mon Dieu !
J'avais oublié, c'est génial ça, effectivement. Et je ne savais pas pourquoi il était là. Et on pensait que ça allait me faire super plaisir, alors qu'en fait, c'était juste le résultat de la blague.
Alors les amis, oui, Maurice Barthélémy, mais pas que. Votre essentiel, c'est aussi votre famille, avec des souvenirs parfois qui vous agaçaient, comme rentrer dans la voiture par le coffre, car les portières ne s'ouvraient plus. Ou quand votre maman venait vous chercher à l'école à pied, avec des pieds nus, avec des fleurs dans les cheveux. Mais surtout des souvenirs avec vos sœurs et ce jeu de se battre sans se toucher en lançant des dictionnaires par l'escalier du premier étage. Wow. Vous faisiez semblant de hurler. Et puis il y avait votre grand-mère paternelle qui venait souvent vous voir et qui vous faisait la prière avant de vous endormir en vous accrochant une médaille de la Sainte Vierge dans vos vêtements. Un papa qui, selon vous, ressemblait à François Hollande. Une maman à qui vous avez écrit un discours si émouvant et drôle lors de son enterrement que tout le monde vous a applaudi. D'ailleurs, après cela, vous avez pris la nationalité haïtienne pour lui rendre hommage et vous vous êtes fait tatouer VV d'Erzuli, symbole vaudou de la déesse de l'amour. Maurice Barthélémy, un ami qui vous veut du bien, avec une grande sensibilité, qui vous permet de garder les mêmes depuis le début autour de vous. Et ça, c'est hyper cool.
Oh merci
vache,
beaucoup,
hyper
Hélène.
Émouvant.
C'est émouvant. Hein.
Mais ouais, parce que tout ce que je n'ai pas raconté dans le livre, ouais. vous l'avez raconté.
Et encore, on a merci, encore une surprise super. Pour vous, mais une surprise sonore. Si j'étais président de la... Et oui, Gérard Lenormand pour Maurice Barthélémy. Oui. Merci Nicolas Souman.
Finalement, je suis devenu fan de Le Normand parce voilà. qu'au bout d'un moment, il fallait.
Merci les Robins des Bois.
Merci Hélène. À demain.
Ah, c'est extraordinaire.
Dans un instant, merci. Notre première indispensable, Marjorie Adelson, qui va nous conseiller trois films à voir ou plutôt à revoir en attendant que les salles de cinéma rouvrent. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Maurice Barthélémy, Fort comme un hypersensible. C'est un livre dans lequel il raconte justement cette hypersensibilité. Et ça parle de lui, ça parle un petit peu de cinéma. On parlait de cinéma avec Marjorie Adelson. Vous avez également joué dans un film culte. Comment vous prononcez ça?
Oui, vous le dites très bien.
Le premier film des Robin des Bois. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il est toujours dans l'actu. Ça n'a pas fait des tonnes d'entrées en salle.
Oh, 1,9 million, ce qui est pas...
Ah, quand même, c'est pas mal. Parce qu'il a plus été décrié que les entrées qu'il a faites.
Ah, à l'époque où il est sorti, effectivement, il s'est fait bien éreinter.
Et il est devenu ce qu'on appelle un film culte. C'est qu'il y a un culte autour de ce film. Les gens le voient, le revoient, le louent. Il est repassé récemment à la télé. C'était le 5 juillet, c'était mon anniversaire, donc je l'ai vu. Et ça a généré un papier entier dans Téléstar avec une grosse info. Il paraît que vous avez eu l'idée en scooter avec Jean-Paul Rouve. Non, mais je vous jure, c'était ça le papier.
Énorme info. Oui, effectivement, ouais. C'est comme ça que m'est venue l'idée. Ouais, effectivement, c'est vrai.
C'était la première enquête policière pendant la préhistoire. On va entendre un extrait.
Chef, il y a un appel pour vous. Oui, c'est qui?
C'est moi, le meurtrier.
Pierre, vous m'enregistrez bien toute cette putain de conversation.
C'est moi, le vrai crimier. Vous vous trompez de coupable.
Pour le localiser, il faut le faire parler.
Tu es pour ou contre l'avortement?
Ouais, et toi?
C'est difficile comme question, ça.
Dans le cas...
Pardon, vous coupez, excusez-moi.
Non, non, allez-y, je vous en prie.
En fait, je vous appelais pour vous dire que je vais tuer demain.
Passez le voir.
Vous allez tuer qui?
Ah, ça, c'est une surprise.
Mais vous allez faire ça où?
Ah, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Écoutez, on va dire que je vais faire ça ici, de là où j'appelle. Et une dernière chose, quand j'aurai tué ma victime, je la jetterai à l'eau.
Allô? Allô? Allô?
La tête de Maurice.
Non mais déjà que ce film est surréaliste, mais à la radio c'est encore plus dingue.
Oui, ce qu'il faut dire, le petit oiseau, ça symbolise le coup de fil.
Exactement.
Hein, la bonne blague. Film réalisé par Alain Chabat, oui. Il faut le dire, et ça l'a traumatisé au point qu'il n'a pas tourné de film pendant 8 ans. Non mais c'est vrai en plus.
Il a pris 8 ans pour s'en remettre.
Non, il a tourné, mais ouais. Pas comme comédien, mais pas comme réalisateur. Vous-même, vous avez vécu comment la sortie du film et maintenant?
Ça a été très violent à l'époque parce que Le Parisien avait sorti carrément la une en disant le film nul. Ouais. Et donc nous, on avait trouvé ça assez injuste parce qu'on n'avait rien commis de grave si ce n'est un film qui nous faisait rire. Mais après coup, c'est vrai que le film aujourd'hui, il est vu par pas mal de monde et il est même repris récemment depuis le couvre-feu où les gens disent ça va être tout noir dès que le couvre-feu tombe. Donc il est un peu rentré dans, comme ça, ouais, mais c'est chouette. Quoi.
Voilà, c'est ce qu'on appelle c'est un film culte. Voilà. Bravo, et vous êtes dedans. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
C'est votre première ici à Culture Média, bienvenue.
Merci.
Marjorie Adelson, vous parlez de cinéma, les cinémas sont fermés, je ne vous apprends rien. Donc vous allez nous présenter une sélection de films en VOD, il n'y a pas que rrr dans la vie. Vous allez démarrer par Pieces of a Woman, réalisé par Cornel Mundruxo. Merci de l'avoir dit mieux que moi. C'est disponible sur Netflix, ça j'y arrive.
Oui, alors c'est un film qui est bien parti pour les Oscars. C'est un film qui secoue car il parle d'un sujet tabou qui concerne pourtant chaque année des milliers de familles, vous allez comprendre. C'est l'histoire de Martha et Sean, deux jeunes trentenaires qui attendent leur premier enfant. Ils ont choisi l'accouchement à la maison, avec une sage-femme bien sûr. Alors tout est prêt, la chambre du bébé, le nouveau monospace. Problème, le jour J, ça ne se passe pas comme prévu et le bébé meurt quelques minutes après la naissance. Martha va donc devoir faire son deuil alors que s'ouvre un procès contre la sage-femme. Écoutez.
Tu as décidé d'aller au procès?
J'irai pas à ton putain de procès.
Pourquoi, ma chérie? Elle doit payer pour son incompétence. C'est pour toi parce que tu dois faire face à
cette
situation.
Je fais face à la situation, je fais face!
Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous devons faire en sorte que justice soit rendue.
Non, tu dois. C'est ce que toi, tu veux. C'est ce dont toi, tu as besoin. C'est ta manière de faire les choses, c'est pas la mienne.
Voilà, l'ambiance est assez oppressante, on se croirait presque chez Bergman. C'est un film thérapie pour le réalisateur Mundruxo et sa femme qui ont eux-mêmes vécu cette situation. Il dresse un portrait puissant d'une femme qui se bat toute seule pour se reconstruire. Rien que la scène d'ouverture sur l'accouchement, c'est une merveille de mise en scène. Pendant 23 minutes de plan séquence, on vit au rythme des contractions de Martha, on pousse avec elle, on a l'impression littéralement d'être dans la pièce. Ça faisait longtemps, personnellement, que j'avais pas été sidérée devant une scène de cinéma. Un film dur, bouleversant, mais beau. Il montre que même après une telle épreuve, eh bien, on peut se relever. À voir donc, évitez juste le dimanche soir si vous êtes du genre cafardeux. Pieces of Woman sur Netflix donc.
Alors le deuxième film que vous avez choisi, Marjorie, c'est La Daronne dont on avait parlé ici il y a quelques mois. On avait reçu le comédien dont le nom m'échappe à l'instant.
Hippolyte Girardot.
Merci beaucoup. Film qui sort en DVD avec notamment Isabelle Huppert.
Oui, si vous êtes en manque d'aventure à cause du couvre-feu, eh bien cette comédie policière, ça peut être un bon remède. Alors, je vous rappelle un petit peu l'histoire. Patience Portefeu, jouée par Isabelle Huppert, est interprète à la Brigade des Stupes. Un jour, elle surprend une conversation entre dealers sur une énorme livraison de cannabis. Et là, elle se dit, et si c'était l'occasion de combler mes dettes ? Patience va donc récupérer la drogue et l'écouler. Elle devient la daronne à la tête d'un vaste réseau de trafiquants, des jeunes pour la plupart. Écoutez le réalisateur Jean-Paul Salomé.
Le film parlait de ça aussi, de cette génération de jeunes français issus de l'immigration qui n'ont pas leur place dans la société et pour lesquels parfois devenir dealer, ben c'est un peu la seule solution et que finalement dealer c'est aussi un boulot qui demande du travail, aussi curieux que ça puisse paraître, même si c'est totalement illégal. Et le film montrait ça parce que le personnage que joue Huppert, a ce côté un peu anard de gauche et je trouve que c'était ça qui était intéressant et qui était vraiment original.
Voilà, alors Isabelle Huppert dans un kebab, Isabelle Huppert en train de négocier avec des petits caïds. L'actrice casse son image, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue dans une comédie. On sent qu'elle s'amuse et franchement du coup, nous aussi. Ouais. Un film vraiment drôle, mordant, qui n'hésite pas à mélanger les registres, du policier au burlesque. La Daronne est disponible en DVD et VOD.
Et je confirme, je m'étais bien amusé. Pour terminer, vous avez choisi un film allemand, ça s'appelle Ondine. Et ça vient de sortir en DVD, VOD.
Oui, alors c'est un film pour les âmes romantiques, adapté du mythe d'Ondine, la créature des eaux. On est à Berlin et Ondine, jeune historienne, se fait quitter par Johannes, son amoureux. Elle lui annonce donc très sérieusement qu'elle va devoir le tuer. Ondine va pourtant retomber amoureuse grâce à Christophe, un charmant scaphandrier qui zozote, jusqu'au jour où elle recroise le fameux Johannes. Et là, elle se rappelle sa promesse. Alors le réalisateur Christian Pelzot réussit une adaptation intelligente et moderne du mythe. On se laisse emporter pendant tout le film par la poésie et la beauté des images, sous-marines notamment. Paula Baer qui joue Ondine nous hypnotise, c'est elle qui porte le film. Elle nous donne envie de découvrir Berlin, à voir donc Ondine.
Merci beaucoup Marjorie Adelson, Maurice Barthélémy. Vous étiez très attentif, une réaction. Vous choisissez lequel des trois ?
Je choisis le premier.
D'accord.
Que j'ai raté et que je vais regarder, évidemment.
D'accord. Et on va tous pousser avec vous. Merci beaucoup. Il s'appelle Pieces of a Woman. Redites le nom du réalisateur, parce que j'y arriverai pas. Merci beaucoup, Marjorie Adelson. C'était bien pour une première.
Ouais, félicitations.
Hein, là, félicitations.
On a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Quoi.
Mais peut-être qu'elle a fait ça toute sa vie. Ouais. Dans un instant, notre deuxième indispensable, lui aussi, il a fait ça toute sa vie. C'est Clément Le Saffre. Il joue aux jeux vidéo. Mais d'abord, musique avec l'impératrice. Ça s'appelle Peur des filles.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Maurice Barthélémy, fort comme un hypersensible. Vous êtes un gamer, Maurice Barthélémy ?
Absolument pas.
Ça tombe très très bien parce qu'on va parler de jeux vidéo. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous présentez ce matin un jeu qui a connu un immense succès en 2020 et qui devrait encore cartonner cette année.
Oui, et ce jeu c'est Among Us. Alors, si on traduit, ça veut dire parmi nous. Et avant de vous le présenter, un chiffre qui dit tout sur ce jeu. On a coutume de dire que Fortnite, le roi des Battle Royale, est le jeu le plus populaire du monde avec 350 millions de joueurs. Eh bien, ce n'est plus le cas. Depuis quelques mois, Among Us rassemble 500 millions de joueurs.
Waouh, 500 millions, expliquez-nous, c'est quoi ce jeu ? Comment ça fonctionne ?
C'est très très simple. En fait, Among Us se joue en ligne avec 4 à 10 joueurs dont les avatars, des tout petits personnages, sont placés dans un vaisseau spatial. Parmi l'équipage, il y a 1 à 3 imposteurs. Leur but, c'est de tuer tout le monde sans se faire remarquer. Les joueurs dits innocents, eux, doivent effectuer des tâches d'entretien sur le vaisseau et démasquer les imposteurs avant d'être tués, sachant que les imposteurs peuvent saboter le vaisseau pour forcer les joueurs à se concentrer sur une mission très urgente pendant qu'eux commettent leur crime. Tout cela se fait en plus dans le silence. Aucun joueur n'a le droit de parler jusqu'à ce que quelqu'un signale un cadavre qu'il a repéré. Et là, il y a une réunion en urgence.
Domingo a tué Ponce sous les caméras.
Ouf !
Aïe, aïe, aïe.
Direct.
Domingo dans la sauce.
Aïe, 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 aïe.
Alors, Domingo, on va probablement t'éjecter. Tu vas te défendre, mais juste, je veux juste dire un tout petit truc. Je l'ai comme saboté. Pour moi, c'est un move signature de quelqu'un par ici.
On a DFG et Domingo.
Et cette personne, c'est DFG pour moi.
Alors, tout à fait.
Plus les portes.
Je peux même vous dire que les cams ont été sabotés quand j'étais sur les caméras.
Mais là, ce qu'on entend, c'est pas le son du jeu, ce sont le son des joueurs.
Voilà, c'est le son des joueurs. Donc, les micros s'ouvrent, il y a un débat enflammé sur, voilà, on accuse quelqu'un, voilà, lui est un imposteur, ouais. Lui va se défendre et les autres vont dire, est-ce que je crois ou pas à cette version? Et c'est là que ça devient génial, puisqu'il faut voter donc à la fin pour éjecter une personne et les morts n'ont pas le droit de parler. Donc, celui qui s'est fait tuer ne peut pas dire qui l'a tué. Et finalement, c'est celui qui reçoit le plus de votes qui est éjecté du vaisseau. Tout ça engendre donc énormément de stratégie.
Alors, quel genre de stratégie? Comment ça se passe?
Mettons, on va prendre un exemple très concret. Mettons que nous faisions tous les quatre dans ce studio une partie de Among Us. Et je demande, voilà, nous jouons, quelques secondes s'écoulent, je demande moi une réunion d'urgence parce que j'ai vu votre avatar, Philippe, trucidé dans la salle des moteurs. Et j'accuse j'accuse Marjorie. Je vous raconte que je l'ai croisée en entrant dans cette salle pour y effectuer une tâche tout à fait lambda. Or, il n'y a pas d'autre entrée dans cette salle. C'est donc forcément que c'est elle qui l'a tuée, logiquement. Ouais. Maurice Barthélémy, vous serez tenté de me croire. Après tout, pourquoi ne me croiriez-vous pas? Sauf que... bah, je peux très bien, moi, être un imposteur, avoir moi-même tué Philippe et essayer de vous retourner le cerveau à tous pour que vous votiez contre Marjorie, ce qui me facilitera la partie puisqu'il y aura une innocente de moins. Bref, tout ça, c'est très malin et avec le confinement et le couvre-feu, eh bien, Among Us est devenu le jeu parfait entre amis, on s'entraide, puis on se plante des couteaux dans le dos. Moi, j'y joue très souvent avec mes potes le soir ou le week-end et je peux vous dire que cette bande de traîtres, eh ben, je ne sais plus vraiment si c'est mes amis.
Ils vous écoutent, c'est génial, mais alors je le confesse Clément, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu.
Et c'est normal, en fait le succès de Among Us, il est d'autant plus fou qu'il y a 6 mois, personne ne connaissait ce jeu. L'histoire est assez dingue, il a été créé en 2018 par un petit studio américain, d'abord sur smartphone, puis sur PC. Sauf qu'à l'époque, c'était un bide. Personne ou presque ne jouait à Among Us, mais les développeurs, ils y ont cru, ils n'ont pas abandonné. Ils ont publié des mises à jour, ils ont amélioré le jeu petit à petit. Et c'est finalement le Covid qui a mis en lumière le jeu. Puisqu'avec en fait les confinements, les streamers, vous savez ceux qui diffusent en live sur Twitch leurs parties de jeux vidéo, eh bien ils ont cherché des jeux pour s'occuper, forcément ils n'avaient rien d'autre à faire. Et l'un d'entre eux, qui est suivi par 6 millions de personnes aux États-Unis, il est tombé sur Among Us, c'était en juillet dernier, il y a joué en live, et là la folie a commencé, effet boule de neige, d'autres influenceurs se sont emparés du jeu en voyant que ça marchait bien, que ça attirait des gens, et en quelques semaines il a fait le tour du monde, facilité aussi par le fait que le jeu est totalement gratuit sur smartphone et qu'il ne coûte que 4€ sur PC et Switch, donc c'est très accessible. Voilà. Et résultat, c'est une histoire assez incroyable pour ce jeu. Et si maintenant on doit être reconfiné, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, vous saurez quand même comment occuper vos soirées.
Non, c'est très très tentant, Maurice Barthélémy. Ça rappelle même l'enquête.
Moi, je joue à Stop Covid. Ouais. Mais j'ai toujours pas compris comment on gagnait.
Personne n'a compris. Vous restez avec nous, Maurice Barthélémy.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Marjorie. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Maurice Barthélémy qui publie avec Charlotte Vils, c'est une psy, ça s'appelle Fort comme un hypersensible. On apprend des choses sur vous assez incroyables. Vous découvrez votre hypersensibilité en 2015. Auparavant, vous étiez allé voir une psychanalyste. Deux choses. D'abord, ça vous fait sourire. D'abord, cette psychanalyse est assez spéciale. Enfin, je ne suis jamais allé voir un psy, mais elle s'endort pendant que vous parlez.
Oui, ça devait faire partie de sa thérapie, c'est-à-dire qu'elle elle piquait un petit dodo comme ça pendant que je parlais, ce qui était assez bizarre.
Mais ça ne vous interrompait pas, vous continuiez à parler.
Mais c'est surtout que ça faisait super bizarre. Je venais la voir parce que j'avais des problèmes de légitimité et quand il y a un psy qui s'endort, forcément ça...
Elle avait quel âge?
Oh, elle est pas toute jeune, elle avait 70 ans passés.
Ouais, parce qu'ensuite vous avez fait un transfert, ce qui est classique dans une psychanalyse, on tombe amoureux de son psy, dit-on. Mais vous n'avez pas tout à fait fait un transfert sur elle, mais racontez comment s'est manifesté le transfert.
On m'avait expliqué qu'effectivement, quand on fait une thérapie, on a un transfert, c'est-à-dire que on est attiré par son psychanalyste. Alors moi, j'ai pas été attiré par ma psychanalyste. En revanche, j'étais attiré par toutes les vieilles dames dans la rue. C'était particulier.
Mais au point d'avoir du désir.
Bah, c'était un petit fantasme, ouais. Ça a duré un mois, pas plus.
Voilà. Et vous avez concrétisé le fantasme ou pas?
Non, ça s'est arrêté là.
Parce que le livre est très, très pudique, je n'étais pas inquiet. Chacun vit sa vie comme il veut. Vous parlez également du drame qui a été votre prénom. Maurice, alors que tous vos frères, votre frère et vos sœurs ont des prénoms normaux.
Ouais, exactement. Moi, on m'a appelé Maurice parce que tous mes grands-pères s'appelaient Maurice. Donc, c'est tombé sur moi. Et c'est vrai que quand on a 4 ans et qu'on s'appelle Maurice, c'est particulier. Aujourd'hui, ça fait hyper hipster. Mais à l'époque, c'était compliqué.
C'était pas dans la normalité. C'est pas normal que ce soit un prénom anormal. C'est que c'était anormal eu égard à votre année de naissance.
Exactement.
Y a un chapitre dans lequel vous apprenez à nous méfier des pervers narcissiques. Oui. Vous avez vraiment vécu, subi cela?
Oui, ça m'est arrivé, effectivement, en tant qu'hypersensible. Ben, on tombe souvent sur des manipulateurs ou manipulatrices.
Vous ne le dites pas, mais on a l'impression que c'est une fille. Parce que oui, vous racontez qu'ensuite,
c'est une femme, effectivement.
Votre séparation vous a totalement dévasté.
Alors, je ne vais pas trop quand même développer, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est hypersensible. On tombe très facilement sur des manipulateurs. C'est un tout petit peu la mauvaise association des hypersensibles.
Voilà. Vous êtes très pudique et vous ne développez pas parce que c'est une personne connue. Voilà, c'est la comédienne Judith Godrèche, c'est dans le livre, donc moi je peux me permettre de le dire. Toute votre histoire personnelle est absolument incroyable. Vous racontez comment vous avez appris à conduire tout seul en voiture dans Haïti à 15 ans, livré à vous-même. Vous racontez même votre première fois avec une prostituée. Et là, vous ne savez pas que c'est... Vous n'attendiez pas à ça. Vous aviez deux réveils.
Que vous en parleriez.
En général, quand c'est dans un livre, c'est fait pour qu'on en parle.
Oui, tout à fait.
C'est le principe de l'interview.
Exactement.
Ou alors, on ne lit pas les livres. Et alors, vous aviez deux réveils quand vous étiez petit, ouais. Mais là, avec cette prostituée haïtienne, quand même, vous avez pris des sacrées précautions.
J'avais pris deux préservatifs, au cas où.
L'un sur l'autre.
Mais l'un sur l'autre. Alors, je tiens à dire à tous les auditrices et auditeurs, ça ne sert à rien. Un suffit.
Page 250, je vais sortir de ce mauvais pas. Vous écrivez, je finis d'écrire mon prochain film. C'est l'histoire d'un paysan de 60 ans. C'est très très profond comme histoire. Racontez la suite.
Oui, alors c'est un paysan qui est raciste et qui, suite à un AVC, se réveille et ne parle plus qu'arabe.
Voilà. Et là, vous en êtes où du projet ?
Eh ben, j'attends que les salles réouvrent et qu'on puisse de nouveau relancer l'industrie du cinéma pour pouvoir mettre en place ce film.
Vous avez trouvé un producteur ou pas encore ?
J'ai un producteur, ouais. Mais j'ai même le casting, mais j'attends maintenant que les choses puissent se mettre en place, quoi, se produire, j'ai envie de vous dire.
C'est secret le casting ?
Alors, pour l'instant, il y a Isabelle Nanty et Gérard Depardieu. Alors après, il peut se passer plein de choses, hein, ouais, mais ouais. Voilà, ces deux personnes m'ont donné leur accord.
Ouais. Dans l'oreillette, Antoine Genton me dit « on peut finir là-dessus si tu veux », et je suis absolument d'accord. Isabelle Nanty, Gérard Depardieu, on peut finir là-dessus. Vraiment, ça suffit comme nom. Maurice Barthélémy, je rappelle, fort comme un hypersensible, c'est chez Michel Lafon. Et encore, j'ai pas raconté tout ce qu'il y avait dans le livre. C'est encore plus fort que ça. Merci d'avoir été avec nous, Maurice,
beaucoup, Philippe,
d'avoir joué le jeu en direct. Culture Média, ça reprend demain, évidemment, de 9h à 11h. Nous serons avec la directrice de Télérama, Fabienne Pascaud, qui va venir nous parler de Télérama Dialogue, une série de discussions sur le thème de la culture qui aura lieu entièrement en ligne. Et puis la comédienne Alix Poisson pour la saga Disparition inquiétante sur France 2. Disparition, mais apparition dans ce studio. Ah ah, humour. Anne Roumanoff, juste après le flash, ça fait du bien. Je vous dis à demain. Merci encore Maurice Barthélémy.
Merci beaucoup.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.